Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette rubrique culturelle. Nous nous retrouvons aujourd'hui autour d'un livre de Stéphane Vial intitulé « Court traité du design ». Cet ouvrage de Stéphane Vial consiste à s'interroger sur ce qu'est le design, ses constituants et sa raison d'être. Il nous y apporte un point de réflexion philosophique, mais nous permet également de voir en quoi le design conditionne l'expérience humaine. Stéphane Vial a enseigné la philosophie à l'école Boulle de Paris. Il y a donc côtoyé des designers et futurs designers et a pu se pencher sur les problématiques qu'engendrait ce domaine par sa non-reconnaissance et sa méconnaissance. La question du design s'est toujours posée car le design est un domaine à la fois vaste et flou pour la plupart d'entre nous. Qu'est-ce que le design? À quoi correspond-il? L'art et le design sont-ils qu'un seul et même domaine réuni? Pourquoi les designers ne supportent pas que l'on qualifie quelque chose de design? Eh bien, dans ce court traité du design, Stéphane Vial répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, tout en apportant un point de vue philosophique, mais également historique. Dans son premier chapitre, intitulé « Le paradoxe du design », où l'on montre que le design pense mais ne se pense pas, l'auteur y propose une première distinction entre l'art et le design, en soulignant le fait qu'il n'existe pas de théorie véritable du design, contrairement à l'art qui se constitue de réelles théories pratiques. Le design est une pratique de la pensée à part entière. Par la suite, Stéphane Vial y met son point de vue sur ceux qui ne distinguent pas le design des beaux-arts. Ce manque de distinction agace aussi bien les designers que les artistes. Dans l'art, le beau a été priorisé et mis en pratique à travers différentes théories et pratiques. Le design, quant à lui, avant d'être beau, est pensé pour sa praticité. Les personnes qui sont omnibulées par l'idée du beau ne font donc pas la différence entre les beaux-arts et le design. Ce premier chapitre nous permet donc de démontrer que non, les designers ne sont pas des artistes. Avec ce premier chapitre, Stéphane Vial annonce la couleur. Il compte, par le biais de son ouvrage, mettre fin à toute confusion et définir ce qu'est et n'est pas le design. En complément de ce chapitre, je vous recommanderai l'ouvrage de Raymond Loewy, La laideur se vend mal. Stéphane Vial étend sa réflexion sur le sujet dans son sixième chapitre, Faire du projet, où l'on montre que le designer n'est pas un artiste. L'artiste se crée un monde propre où il arrange les choses à sa convenance, comme l'explique Freud. Il obéit à un fonctionnement psychique narcissique dominé par le principe de plaisir. Le designer est quant à lui soumis à des contraintes et des normes en perpétuelles évolutions, mais aussi au verdict des usagers. Il ne travaille pas pour son plaisir propre, mais à partir du désir de l'autre. L'objet qu'il imagine est pour l'autre et non pour lui. Il a là une responsabilité envers autrui, c'est pour cela qu'il cherche toujours à se légitimer. Le designer a lui une démarche d'anticipation car il propose un avenir réalisable, contrairement à l'artiste. Le second chapitre de Stéphane Vial est une réelle bénédiction pour tous ceux qui en ont assez d'entendre le mot design utilisé à tort et à travers. Le mot design n'est pas un adjectif, bien que la plupart des gens l'associent à quelque chose de beau, classe, stylé ou moderne. En réalité, cela revient au même de qualifier une fenêtre de fenêtre. L'utilisation de cet adjectif permet de créer une distinction sociale entre les gens qui ont du goût et qui n'en ont pas. Le design, à force d'être utilisé à tort comme un adjectif, se retrouve associé à des univers centrés sur l'esthétisme, comme la décoration et l'habitat. Cette association expliquerait aussi pourquoi il est difficile pour certains de faire la différence entre l'art et le design. Il est aussi devenu un véritable objet marketing, à tel point que si l'on emploie ce mot pour désigner un objet, l'objet deviendrait nécessairement beau. Cela donne une valeur au design et pousse à la consommation, ce qui n'est pas du tout son but premier. L'utilisation de ce mot pousse également inconsciemment à effectuer un jugement de goût. Et en ayant effectué ce jugement et qualifié l'objet de design, il devient plus attractif à notre égard car il a été qualifié de design. En utilisant le mot design comme qualificatif, il devient encore plus difficile d'en donner une définition. Mais cela décrédibilise également le design car on l'éloigne de son objectif premier qui est d'améliorer le mode de vie des usagers et non l'esthétique. Le design est alors une culture nouvelle qui s'incarne dans un nouveau mot. Bruno Remori a d'ailleurs publié un article très intéressant intitulé « Les usages culturels du mot design » où il y retrace l'ambiguïté dans laquelle est tombé le design dû à la mauvaise utilisation de ce mot. Dans son troisième chapitre, « Design, crime et marketing » où l'on raconte l'alliance très horrifique du design et du capital, Stéphane Vial évoque le syndrome du designer et y démontre l'impact du marketing sur le design. Le design ne se construit plus dans les désirs du consommateur mais par l'impact du marketing car le designer se retrouve soumis à la société de la consommation. Sa tâche est désormais de rendre le produit désirable aux yeux du consommateur et non de rendre la société meilleure. On projette donc des émotions et des significations imaginaires pour adopter des objets dont nous n'avons pas réellement besoin par le marketing. Le design façonne alors aussi bien les objets que les humains. Mais la publicité y joue un grand rôle car elle nous fait décréter ce qui est beau ou non, influence notre subconscient et impose le désir pour le renouveler sans cesse. Pour Victor Papanek, le design industriel n'a alors pas d'éthique. Il élabore des sottises vantées par les publicitaires. Le designer, lui, pourtant, doit avoir un sens de responsabilité éthique et morale contrairement au marketing. Pour découvrir à quel point le marketing peut nous influencer, je vous recommande le documentaire Neuromarketing de Cache Investigation. Stéphane Vial y revient dans son quatrième chapitre, Par-delà le capital, là où l'on énonce la loi morale du designer, pour démontrer que le design est différent du capital, qu'il possède une morale et que son but premier est d'être utile et non de pousser à la consommation. Mais il nous y montre aussi que le design et le capital sont indissociables car le design est obligé d'utiliser l'industrie comme outil de production et circuit de consommation. Il y évoque également l'apparition de l'anti-design qui prône le réinvestissement en toute autonomie. Pour aller plus loin, je vous conseille le livre de la manufacture du meurtre d'Alexandre Alexandra Midal, qui montre l'impact de la révolution industrielle sur la condition humaine. Dans son 5e chapitre, l'effet du design, où l'on réduit l'acuité du design à 3 critères, l'auteur y décompose le design en 3 effets. L'effet d'expérience, c'est-à-dire que le design se vit, il augmente la qualité de l'expérience vécue. L'effet autophanie, qui modifie la qualité de l'expérience. Et l'effet calimorphique, un effet de beauté formelle, qui consiste à chercher à en donner un style et une élégance. Le design commencerait donc avec la jouissance de la perception de la beauté. Comme l'a montré Freud, la perception de la beauté est essentielle car elle procure un appoint de plaisir qui joue le rôle de substitut aux satisfactions pulsionnelles auxquelles nous sommes contraints de renoncer dans la vie réelle. Le design endosse donc la responsabilité de satisfaire le besoin de beauté. La théorie califormique dominante de nos jours est la pureté et la légèreté, mais il ne faut pas oublier que le design a aussi un effet socioplastique. C'est un effet de réforme sociale, les nouvelles formes qui naissent du design comparées à l'art ont une valeur d'usage, une utilité matérielle. Les formes sont capables d'agir sur la société et de la remodeler. Le design est alors une théorie de la forme, de l'homme et de la société. Dans un dernier chapitre, le design numérique où l'on examine les conséquences de la révolution interactive, l'auteur évoque les bouleversements et le scepticisme provoqués par l'arrivée du numérique, l'évolution du rapport humain-machine depuis sa première apparition, mais aussi les possibilités d'évolution du travail de designer avec l'apparition des nouvelles technologies. Pour compléter ce chapitre, je vous propose de lire La fabrique du crétin digital de Michel Desmurgés qui évoque la surconsommation numérique et ses effets néfastes. Cet ouvrage de Stéphane Vial, très enrichissant, nous permet donc de mieux comprendre ce qu'est et n'est pas le design et de mieux le définir. Je recommanderais sa lecture à toutes les personnes étant intéressées par le design car il y retrace son histoire et nous pousse à une réflexion sur notre vision du design. Cette lecture est également essentielle à toutes celles et ceux pour qui la notion du design resterait encore floue. Je vous dis à très vite pour une nouvelle rubrique culturelle.